J'ai des douleurs au niveau du ventre et des douleurs au niveau du dos. Le dos, c'est... J'ai envie comme de planter quelque chose, comme pour aller rechercher quelque chose qui fait mal. Et le ventre, c'est très violent. Si je masse pour aider la douleur du ventre, je peux littéralement enfoncer quasiment mes doigts dans le ventre pour vraiment diminuer la douleur.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24 heures. C'est une pathologie multiforme et douloureuse qui touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer dans le monde. Pourtant, l'endométriose, on en parle depuis peu de temps, car cette maladie touchant exclusivement les femmes a longtemps été minimisée. Parmi ses symptômes les plus courants, on trouve des douleurs, des règles abondantes et de l'infertilité. Ces causes restent encore mystérieuses, bien qu'une composante héréditaire et que des facteurs environnementaux ont un rôle identifié dans l'apparition de la maladie. Pour celles qui en sont atteintes, le diagnostic prend du temps. Nathalie a attendu 14 ans pour savoir d'où venaient ses douleurs menstruelles.
Les premières règles arrivent à 12 ans. Les douleurs, elles sont venues après une année et demie. Pas forcément les plus fortes, mais j'avais de la chance d'avoir une maman... infirmière, donc du coup ça allait encore bien, elle pouvait bien me médicamenter, elle n'hésitait pas à me dire de quoi prendre, quand prendre, et puis aider. Je consulte à 15 ans, parce que en plus des douleurs j'avais des cycles irréguliers, ce qui était aussi des fois un peu embêtant pour la vie d'ado. Elle contrôle que tout va bien, et puis pilule, assez classique.
La doctoresse Christina Rodriguez-Maillot, gynécologue à Lausanne, rappelle qu'il ne faut pas normaliser la douleur.
La douleur est quelque chose de très personnel, mais il y a des femmes qui ont des douleurs telles qu'elles ne peuvent pas sortir du lit, qu'elles ne peuvent pas se rendre à l'école, qu'elles ne peuvent pas aller à leur travail. Et dès le moment où ça a une telle répercussion sur votre vie quotidienne, on ne peut pas dire que ce soit normal. Il faut faire quelque chose, ça veut dire consulter un médecin, en discuter, regarder quelles sont les alternatives. On peut faire quelque chose dans tous les cas pour essayer d'améliorer la situation et la qualité de vie.
Nathalie passe quelques années de répit sous pilule jusqu'à la fin de ses études.
Ma maman m'avait conseillé d'arrêter la pilule un mois par année pour que mon corps retravaille. Comme ça, le jour où je voudrais un enfant, que mon corps sache un peu encore comment faire. Et puis du coup, à la fin de mes études, je me suis dit, c'est un peu le bon moment parce que j'ai pas d'examen, j'ai pas d'études, je peux mettre ça en route. Et je me suis sentie en fait beaucoup mieux sans hormones. Donc, du coup, j'ai arrêté. En me disant, pour si je rencontrais quelqu'un, de toute manière, les premiers temps, c'est préservatif pour toutes les IST. Et puis, je suis restée sans pilule pendant plusieurs années, avec les douleurs qui sont revenues, mais ça ne m'a pas fait tilter d'autres choses. On me disait avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Donc, j'ai gentiment repris mon petit cheminement de reprendre de plus en plus de médicaments. J'ai des douleurs au niveau du ventre et des douleurs au niveau du dos. Le dos, c'est... J'ai envie comme de planter quelque chose, comme pour aller rechercher quelque chose qui fait mal. Et le ventre, c'est comme si on reçoit des coups, comme si... C'est très violent. Si je masse pour aider la douleur du ventre, je peux littéralement enfoncer quasiment mes doigts dans le ventre pour vraiment diminuer la douleur. Donc c'est quelque chose de très très fort, c'est des choses où on prend un antidouleur et finalement ne fait pas, il fait littéralement des fois pas effet. On nous disait en tant que femme, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. C'est des douleurs qui peuvent couper le souffle, c'est des douleurs qui peuvent nous empêcher de marcher, c'est des douleurs où on a envie de hurler tellement qu'on a mal, mais le son il sort pas. Et puis qu'on nous dit, mais, tu prends quelque chose quand t'es douleur, mais c'est pas normal, tu devrais pas avoir mal, ça fait pas mal, moi je prends pas, c'est de la chimie, c'est pas bon pour ton corps de prendre des antidouleurs. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein.
Les douleurs menstruelles peuvent être multifactorielles et il n'est pas toujours aisé de poser le diagnostic.
Des kystes sur les ovaires peuvent faire des douleurs de règles, d'autres pathologies, hein, on peut avoir des problèmes rhumatismaux qui peuvent aussi accentuer les douleurs au moment des menstruations. Donc on ne peut pas, juste parce que quelqu'un a mal pendant ses règles, poser le diagnostic.
Avec mon homme, on voulait un enfant et j'ai eu pendant un peu plus d'un mois, donc avant un cycle, pendant tout le cycle et jusqu'à la fin du cycle suivant, j'ai eu des douleurs tous les jours. Et comme on voulait un enfant et qu'on essayait et que j'avais des douleurs tous les jours, bah c'était difficile d'avoir des rapports et donc difficile de tomber enceinte. Et là, j'étais consultée. Ma gynécologue pense à de l'endométriose. Et d'ailleurs, elle me dit aussi qu'elle me demande pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de mes douleurs avant. J'étais là, oui, mon mari m'a tellement dit que c'était normal que finalement, voilà.
L'endométriose, c'est une maladie où on retrouve des foyers d'endomètre. L'endomètre, c'est cette pellicule qui pousse à l'intérieur de l'utérus chez les femmes chaque mois. Et on retrouve par erreur des foyers d'endomètre ailleurs que dans la cavité utérine. Donc ça peut se retrouver sur la surface de l'utérus, sur les trompes, parfois sur les ovaires, parfois sur l'intestin, donc dans des endroits extérieurs à l'utérus où normalement il n'y a pas d'endomètre. L'endométriose va créer des sortes de foyers, un peu d'inflammation. C'est vrai que dans la majorité des cas, c'est des douleurs, surtout au moment des règles, qui peuvent s'étendre à la période avant les règles et puis probablement juste après. Donc plus la maladie progresse, plus la maladie est sérieuse, plus les douleurs vont créer des inflammations, des adhérences, des foyers un peu inflammatoires un peu partout, des tissus qui s'accolent entre eux, puis ça peut faire petit à petit des douleurs qui peuvent être vraiment chroniques et qui dépassent le temps de la période périmenstruelle. En fonction de quel organe est touché par l'endométriose, on peut avoir des symptômes également au niveau urinaire. On peut aussi avoir des symptômes au niveau de la vie intime, hein, lors des rapports sexuels, présenter des douleurs. On peut avoir aussi des symptômes digestifs. Voilà, en fonction de l'organe qui est touché, c'est vrai que les symptômes peuvent être plus ou moins marqués dans tel ou tel domaine, mais disons que c'est une maladie qui peut être multiviscérale.
La gynécologue de Nathalie ne pose pas un diagnostic immédiat.
On va commencer par voir si c'est pas quelque chose de fonctionnel, c'est quelque chose qui est bloqué ou quelque chose du style. Et du coup, elle me donne le nom d'une ostéopathe spécialisée dans tout ce qui est gynécologie et puis un peu le bassin aussi. Donc je vais la voir plusieurs fois. Elle trouve pas quelque chose de fonctionnel. Elle ne l'a pas senti de masse au niveau de l'endométriose. Ça ne veut pas dire qu'elle me dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'elle, elle n'en a pas senti. Du coup, à la suite de ses consultations en ostéopathie, je revois ma gynéco qui a reçu le rapport de l'ostéopathe. Puis elle me dit, bon, on va faire une IRM.
Un test salivaire qui serait fiable à 100% vient d'être mis au point par une entreprise française. Il n'est toutefois pas encore disponible. Alors pour l'instant, le diagnostic se fait encore par étapes plus ou moins longues et invasives.
On va faire un examen gynécologique classique, normal. On va regarder si on voit des foyers d'endométriose. On peut les voir des fois aussi au niveau des parois vaginales ou sur le col de l'utérus. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une palpation, on va toucher, on va sentir s'il y a une induration ou des douleurs déclenchées par l'examen. Et on peut aussi faire ensuite une échographie, le plus souvent par voie vaginale, si la patiente a déjà eu au préalable des rapports sexuels, on ne va pas faire autrement, pour voir si on voit des foyers d'endométriose. Si on en voit, si on voit quelque chose, ça veut dire que oui, elle a de l'endométriose. Mais si je ne vois pas d'endométriose, je ne peux pas formellement exclure. Je peux lui dire, voilà, avec l'examen que j'ai fait aujourd'hui, je ne vois pas d'endométriose. Ça veut dire qu'en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de l'endométriose sévère, mais je ne peux pas affirmer qu'elle n'en a pas. L'examen a peut-être simplement pas révélé un petit foyer placé proche d'un nerf qui peut être particulièrement douloureux. Donc ça, c'est la première étape qui permet après de voir si on veut aller plus loin ou pas. On peut, si la personne est beaucoup en souffrance et elle est demandeuse et qu'elle a mal, faire une IRM. C'est une imagerie qui n'est pas invasive, mais qui est relativement onéreuse et qui est un examen qui est assez impressionnant pour les femmes parce qu'on est dans une machine qui fait beaucoup de bruit. C'est un peu renfermé, il ne faut pas être claustrophobe. Et ça, c'est un examen qui peut permettre de voir un certain nombre de foyers d'endométriose profonde qui sont des fois pas accessibles à l'échographie. Donc ça peut être un deuxième pan de diagnostic.
L'IRM, ça n'a pas été une partie de plaisir. Hein. Je ne m'attendais pas à être autant dans l'appareil, sachant que je me suis dit que ce serait le bassin, j'aurais ma tête à l'air libre, youpi matin, alors que non, pas du tout, j'étais quand même assez proche de l'appareil, en ayant quelque chose assez proche de ma tête, donc du coup j'ai un peu découvert que j'étais aussi un peu claustrophobe. Et c'est vrai que passer l'examen, il dure environ 30-35 minutes, je crois. On pense qu'à ça, en fait. On se dit, mais en fait, je suis en train de passer une IRM, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche, on passe pas une IRM, qu'on est en bonne santé, que tout va bien, que tout ça. Puis de se poser aussi la question, je dis, mais est-ce que j'aurais dû consulter avant? Est-ce que je me suis fait du mal en voulant me faire du bien, en essayant de faire juste, en pensant faire juste? Parce que finalement, quand on rétrospecte en arrière tout ce qu'on a pu prendre comme médicament, en fait, c'est un beau miracle de ne pas avoir eu d'autres soucis, des ulcères, ou n'importe quoi. Parce que finalement, des médicaments qu'on nous dit qu'il faut prendre avec les repas, à jeun, on en prend beaucoup.
Vous parlez des antidouleurs, là.
Oui. Enfin, à 2h du matin, on ne sort pas du lit pour se faire un petit crasse-croûte pour prendre un ibuprofène. Hein. On n'arrive pas à sortir du lit pour aller se faire un casse-croûte. Donc, on a des médicaments dans la table de nuit et puis on les avale. On les avait à ce moment-là, quoi. C'est à la fin de la consultation, enfin à la fin de la consultation d'IRM, à la fin de l'examen d'IRM, il y a un médecin qui a regardé pendant juste un petit peu les images et autres, en me disant que oui, il y a l'endométriose, qu'il y en a sur les deux ovaires, et que la personne va faire le rapport et l'envoyer à ma gynécologue. Je sors de là en me disant, mon Dieu, mais est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Est-ce que je peux encore dire que je suis en bonne santé? Qu'est-ce que serait ma vie aujourd'hui si ça avait été diagnostiqué avant?
Les traitements dépendent également des projets de vie des femmes atteintes.
Si on a des douleurs très importantes et que l'on veut pas tomber enceinte à court terme, on va plutôt favoriser des traitements hormonaux. C'est ce qu'on va proposer. Il y a des gens qui n'acceptent pas, qui n'ont pas envie de prendre des hormones. Après, c'est quand même le traitement de choix. Il y a des médicaments qui diminuent les règles, voire qui les coupent, en fait, et qui vont faire que ces foyers d'endométriose, donc ces foyers d'endomètre qui, à l'extérieur, régressent ou diminuent, et du coup, n'ont plus cette inflammation et ces douleurs. Les patientes qui sont sous ces traitements n'ont pas de règles, normalement, quand le traitement fonctionne comme il devrait, et du coup, les douleurs se calment, les foyers inflammatoires diminuent, et si le traitement est bien supporté, on peut le prendre relativement longtemps. Quand le traitement ne fonctionne pas, il existe d'autres types de traitements où, en fait, on crée une espèce de ménopause artificielle avec, malheureusement, les effets secondaires qui vont avec. Donc, on est des fois obligé de donner des médicaments en plus pour contrer les effets secondaires du médicament. Donc, c'est des traitements relativement lourds, ce qui fait que certaines personnes n'ont pas envie de les prendre. Comme notre idée de base, c'est d'essayer d'éviter les règles, n'importe quel contraceptif, on peut essayer d'éviter d'avoir les règles pour éviter que l'inflammation soit un peu exacerbée à chaque cycle, peut faire l'affaire s'il est mieux toléré que les traitements de première ligne. Si la patiente, par contre, est dans une période de sa vie où elle veut absolument tomber enceinte rapidement, parce qu'il ne faut pas oublier que chez certaines patientes, on découvre l'endométriose que dans un contexte d'infertilité. Quand on commence à se poser la question pourquoi la grossesse n'est pas encore survenue, tout d'un coup, on peut, en faisant des investigations, se retrouver dans une situation d'endométriose. Alors, il peut arriver qu'on ait quand même le temps, qu'on ne soit pas dans la panique et qu'on ait le temps devant nous. À ce moment-là, on va quand même proposer pendant quelques temps un traitement hormonal pour arrêter les règles, pour mettre les choses au repos, quitte à retenter le coup un petit peu plus tard, mais en fonction du timing, des fois on n'a pas le temps, ou les douleurs sont trop fortes, ou l'endométriose est trop sévère, et il y a toujours une option de faire une chirurgie, où on va à l'intérieur du ventre essayer de nettoyer le mieux possible les foyers d'endométriose que l'on voit. C'est des interventions qui sont toujours délicates, parce que les tissus sont inflammés, sont délicats. Dès qu'on les touche, ça peut blesser des organes adjacents. Donc, on essaye vraiment actuellement de temporiser au maximum et de limiter la chirurgie au cas où c'est vraiment strictement indispensable.
Une fois son endométriose confirmée, Nathalie se rend à une consultation spécialisée où on lui propose un choix.
La consultation se fait sur le fait qu'il y a plus ou moins deux possibilités. Soit une opération pour enlever toutes les masses d'endométriose avec un risque quand même d'infertilité, voire même de stérilité vu que j'avais les ovaires touchés, soit de faire une FIV. Une FIV, ce n'est pas une garantie 100% non plus. C'est pas évident, ça fait aussi un gros sentiment de culpabilité vis-à-vis du conjoint en se disant « mais en fait, si à la place de me rencontrer moi, il aurait rencontré quelqu'un d'autre, potentiellement il serait déjà papa. » Ou elle aurait été en queue enceinte ou comme ça, mais que ce serait vraiment déjà en route et pas une grosse remise en question de « est-ce qu'on va avoir un enfant un jour ?»
Environ 50% des patientes présentant des troubles de la fertilité seraient touchées par l'endométriose.
Les foyers d'endométriose peuvent effectivement se trouver à l'extérieur de l'utérus et toucher les ovaires, les trompes, peuvent rendre les tissus inflammés, indurés, le trajet d'un ovule entre les ovaires et puis l'utérus peut être compliqué. Donc ça peut rendre la conception difficile. Il peut y avoir des ovaires qui sont touchés également, donc il peut y avoir des kystes d'endométriose au niveau des ovaires. Donc tout ça fait que la fertilité peut être compliquée, même si beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose peuvent aussi concevoir sans que l'on découvre l'endométriose dans ces circonstances-là.
Du coup, on prend la décision de partir sur la FIV parce que c'est vrai que le risque opératoire... Déjà, ça n'empêche pas l'endométriose de revenir, ça empêche l'endométriose d'être là, ça enlève ce qui est là sur le moment, mais ben, au cycle suivant, on peut en revoir. Et aussi en sachant que nous, on peut le faire parce qu'on a des sous. Enfin, on ne croule pas sur l'or, mais on peut se permettre ce traitement-là, qui est quand même un traitement cher. C'est quand même, voilà, une FIV, c'est quand même contraignant. Il y a beaucoup d'hormones. C'est aussi contraignant d'un point de vue timing. On a les injections qui doivent se faire à telle heure. On a des contrôles à faire aussi au niveau médical. Donc on a régulièrement un petit rendez-vous médical et tout. Et du coup, ben, on passe cette première étape. Et puis, il y a 6 ovocytes qui sont bien, qui peuvent être prélevés. Il en reste que un qui pourrait être implanté.
Si on doit faire une FIV dans un contexte d'endométriose, tout dépend à quel stade, quels organes touchés, quelle partie. Donc ça peut, si par exemple les ovaires sont touchés, une stimulation des ovaires, parce qu'on doit stimuler les ovaires pour pouvoir prélever des ovules pour faire une FIV. Et puis évidemment, s'ils sont malades, ça peut quand même rendre la tâche plus compliquée. Dans la même situation, en fonction quelle partie de l'utérus ou derrière l'utérus est touchée, peut-être que les taux de réussite ne sont pas forcément aussi bons que pour quelqu'un qui aurait une autre indication à faire la FIV. C'est vraiment des situations individuelles et on ne peut absolument pas faire de généralité. Chaque cas est unique et ce qu'une femme qui a l'endométriose raconte à son amie qui a l'endométriose n'est pas forcément la même chose. On ne peut pas adapter ni les traitements, ni la chirurgie, ni les traitements même d'infertilité. Ce ne seront pas forcément les mêmes qui seront proposés.
Après l'implantation de son embryon, Nathalie doit attendre 2 semaines pour savoir si elle a fonctionné. Une attente interminable.
C'était 2 semaines abominables jusqu'à ce qu'on fasse la prise de sang. Et puis après, avec la prise de sang, commence l'attente interminable de « ils ont le résultat, ils ont le résultat, ils ont le résultat, ils ont le résultat ». Le coup de fil tant attendu en disant « quel est le résultat ?» Et puis qu'on me dit « ah mais votre taux est vraiment haut, vous êtes enceinte ». Là, c'est les larmes, comme ça a été plusieurs fois le cas depuis l'annonce de la maladie, mais pour une fois, c'est des larmes de joie.
Et la grossesse, c'est aussi une période de répit pour la maladie.
Pendant toute la période de la grossesse, ça va mieux. Souvent, si on allait et qu'on a de la chance de ne pas avoir les règles qui reviennent trop vite, ça fait aussi une période un petit peu de répit. Et effectivement, c'est un traitement... on va dire dans le temps qui est limité, mais qui est une période de la vie où on n'a pas de douleur et où on n'a pas de foyer qui progresse en principe.
Les premiers mois, c'est assez facile parce que je l'allaite, donc du coup, j'ai pas un retour de couche qui se fait tout de suite. Il s'est fait juste avant ces 6 mois, 2 semaines avant. Donc du coup, les premiers mois, ça va. Il y a un peu de douleur, mais en fait, c'est un peu des douleurs qui peuvent être totalement physiologiques, étant donné, ben voilà, le corps, il a quand même été complètement déplacé avec tous les organes, l'utérus doit se remettre en place. Le premier cycle, ça se passe assez bien, un peu de douleur, mais pas trop. Et puis, ben là, avec les suivants, on est un petit peu en attente de voir si la grossesse, elle a pu aider, si ça s'est juste mis en pause pendant la grossesse.
C'est une maladie qui peut évoluer sous forme de poussée. On peut avoir des moments où on a des grosses poussées, beaucoup de douleurs, des moments où il faut prendre des traitements, des moments où on n'en a plus besoin, où on peut diminuer. Même si on sait que quand on est ménopausé, ben, c'est un traitement, on n'aura plus les règles, donc on aura plus ces foyers d'endomètres qui vont être inflammés périodiquement. Malheureusement, il y a quand même des femmes après la quarantaine qui refont des crises. Alors c'est souvent des femmes qui avaient déjà de l'endométriose de longue date, mais qui refont des crises. Donc c'est malheureusement, tant qu'on n'est pas en ménopause avérée, on a encore le risque de refaire des crises.
Entre le moment où j'étais voir ma gynéco en disant « mais là j'ai vraiment mal et puis que ça m'embête », et le moment où je suis tombée enceinte, là il s'est passé un peu plus d'un an et demi avec Covid. On précise quand même, parce que ça a un petit peu ralenti aussi les choses, ce petit Covid. Donc du coup, finalement, je me dis, ben, j'ai eu énormément de chance de pouvoir tomber enceinte, de pouvoir avoir un enfant en bonne santé, de tomber enceinte rapidement avec une FIV, parce que certains, ils doivent en cumuler des cycles, que j'ai de la chance d'avoir pu payer la FIV, ça aussi, parce que c'est pas pris en charge. Et du coup, pour la suite, ben, je pense que j'aurais, contrairement au quand on a posé le diagnostic où j'ai pas tellement forcément voulu le dire au travail, là, je serais plus à le dire. Si je dois rater du travail régulièrement parce que j'ai des douleurs, ben, en fait, oui, je suis en bonne santé, mais j'ai quand même une maladie qui peut m'embêter. S'il y a des douleurs qui reviennent, on ira chercher plus loin, voir qu'est-ce qui est possible. Et moi, je suis assez aussi à proposer des solutions, à dire « Ah, mais est-ce que vous avez essayé ça ?» Si, parce que c'est vrai que les hormones, ça m'embête un peu. Donc je pose la question, où c'est que ça en est la recherche ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de me mettre sous pilule pour bloquer mon cycle ? Donc je suis assez confiante en me disant que finalement, le pire, c'est peut-être de ne pas savoir ce qui se passe. De ne pas savoir, d'être dans l'attente. Tandis que là, je me dis « Ben, si on veut un autre enfant, potentiellement ce sera une FIV qui fonctionnera peut-être pas du premier coup, mais en même temps, ça fonctionne. Ben, je me dis que ça peut aller que bien, que j'ai déjà un magnifique petit enfant à la maison, et que ça, c'est aussi un cadeau.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des liens vers des ressources concernant l'endométriose dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois !